Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Coucou. Dans la nuit du 11 janvier 1993, les pompiers sont appelés pour un incendie à Prévesin, petite commune de l'est de la France. La maison est habitée par une famille. Femmes, enfants et mari sont à l'intérieur, mais ne répondent pas aux hurlements des soldats du feu qui défoncent la porte de la maison, entrent dans le brasier et découvrent avec horreur quatre corps inertes qui sont rapidement sortis de l'habitation. Très vite, le médecin présent sur place donne l'alerte. Tout ça n'est pas un accident. Les deux petits ont une balle de fusil dans la tête. La mère a eu le crâne défoncé avec un objet contondant. Et le père est à moitié asphyxié. Il a été drogué aux médicaments. Les proches des victimes sont rapidement avertis de la situation. C'est alors à ce moment-là que l'on découvre que les parents du mari, Jean-Claude Roman, ont eux aussi été abattus à leur domicile. Mais alors, qu'a bien pu faire la famille Roman pour finir décimée en une nuit? Quel secret pouvait-elle bien cacher? Et surtout, pourquoi le mari, Jean-Claude, est le seul survivant à ne pas avoir été battu ou abattu par balle? Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout my skies, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va s'attaquer à un classique de l'histoire criminelle française, une affaire que vous m'avez énormément demandé, l'histoire de la famille Roman qui a fasciné le pays de par leurs mensonges mais aussi leurs massacres, puisque vous allez voir que c'est comme ça que débute notre affaire avec la mort de 5 personnes. J'ai écrit cet HVF grâce au livre d'Emmanuel Carrère nommé « L'adversaire » qui reprend l'histoire de la famille Roman du début jusqu'à la toute fin. Et j'ai bien évidemment recherché les dernières informations sur l'histoire puisque dernièrement justement, eh bien certains médias ont reparlé de l'affaire Roman, mais je vous dis pas pourquoi. Vous découvrirez ça à la fin de cet HVF. Petite parenthèse, je sais que l'affaire a été traitée très récemment sur certaines chaînes YouTube, j'en suis désolé, vous savez très bien que les HVF ne mettent pas une semaine ou deux à être préparés le temps de faire les illustrations. Donc voilà, le planning tombe mal, mais c'est comme ça, faites-moi confiance, l'affaire Roman est dingue. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une nuit enflammée. Pas dans le bon sens, hein, parce qu'on peut passer des nuits enflammées, mais là vous allez comprendre. Notre histoire prend place aujourd'hui en France, et cette fois on n'est pas dans le nord, ni vraiment dans le sud, mais entre les deux, plus précisément à Prévesin-Moëns, petite commune frontalière à la Suisse qui se situe tout près de Genève, et vous imaginez donc que la majorité des habitants de Prévesin vont se taper un beau salaire en Suisse plutôt que de vivre la misère en France. Mais on va pas se plaindre, chez nous on a du Doliprane gratuit, on peut aller à l'hôpital gratuitement également. Bon, alors on y meurt dans un couloir aseptisé après avoir été abandonné pendant 8 heures, mais au moins, bah c'est gratuit. On met aussi plus d'un an à avoir rendez-vous chez un spécialiste, mais là aussi c'est gratuit. Quelle fierté de pouvoir mourir dans un couloir aseptisé. Tout ça gratuitement alors que l'État nous prend 50% de nos revenus. Est-ce qu'ils ont ça en Suisse? Je crois pas. Bref, Prévesin, c'est donc l'endroit idéal pour une famille comme celle des Romans, puisque Jean-Claude le père, c'est pas n'importe qui, il est médecin mais surtout chercheur à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Jean-Claude vit à Prévesin avec sa femme Florence et ses deux petits, Caroline 7 ans et Antoine 5 ans. On parlera comme toujours de l'histoire familiale après le drame qui va lancer notre affaire. Il est environ 4 heures du matin ce lundi 11 janvier 1993 lorsque les éboueurs de Prefsin aperçoivent au loin une grande maison en train de prendre feu. Rapidement, les pompiers sont alertés et débarquent sur place. Les sirènes réveillent le voisinage, dont Luc, l'admiral, qui a été appelé par l'un de ses amis pour lui apprendre la nouvelle en pleine nuit. La maison des Romans a pris feu. Les pompiers sont en train de sortir les corps. Luc sort de chez lui. Les Romans, ce sont de très bons amis à lui. Il a fait ses études avec Jean-Claude, c'est même son meilleur ami, et ses enfants dorment même de temps en temps chez les Romans. S'il faut sauver les meubles, il se porte volontaire sans problème. Arrivé sur place, il arrive alors que les corps de la famille sont encore en train d'être évacués. Il dira plus tard se souvenir encore de ces sacs plastiques gris, scellés, dans lesquels les petits étaient. Florence, la femme de Jean-Claude, est quant à elle recouverte d'un simple manteau pendant que les pompiers se battent encore avec les flammes. D'un petit geste, Jean-Luc lui caresse les cheveux en guise d'adieu et il remarque tout de suite, lui qui est médecin, que Florence a plusieurs plaies béantes au-dessus du crâne. Il demande alors au pompier pourquoi elle a ce type de blessure sur sa tête. Et le pompier lui explique que c'est normal, le grenier s'est effondré suite à l'incendie et elle a sûrement pris une poutre sur la tête. Bon, ok. L'incendie est d'ailleurs très violent, comme s'il avait été déclenché avec un accélérant, ou bien que d'un coup, tout le réseau électrique de la maison s'était enflammé. Mais le temps n'est pas aux expertises. Jean-Claude Roman, le père de son côté, est encore vivant. Il est en pyjama, son pouls bat faiblement, il est envoyé en urgence absolue à l'hôpital de Genève. Alors que le jour se lève, l'un des oncles de Jean-Claude est chargé de prévenir ses parents du drame qui s'est joué cette nuit. Il faut y aller avec des pincettes, ce sont des personnes âgées. Aimé et Anne-Marie Roman vivent à 1h30 de Prefsin, à Clairvaux-les-Lacs, dans un beau chalet dans lequel ils comptent bien passer leurs vieux jours. Sauf qu'arrivé sur place, personne ne répond à l'oncle qui est accompagné du médecin de la famille qui est là en cas de malaise suite à l'annonce. La maison est fermée et même le chien, un petit labrador, ne donne pas signe de vie. L'oncle Roman enfonce la porte et ressort aussitôt en hurlant d'appeler les secours. Prévenus par le voisinage, les gendarmes découvrent l'horreur. Les parents de Jean-Claude, dont la maison vient de brûler avec sa famille à l'intérieur, ont été abattus par balles. Ils sont allongés au milieu du salon sous des couvertures. L'affaire prend une tournure criminelle. Les journalistes qui étaient sur place ce matin-là apprennent la nouvelle. Dans le même temps, le médecin légiste qui reçoit les corps de la famille Roman est formel. Il déclare que Florence, Caroline et Antoine ne sont pas mort des causes de l'incendie. Caroline et Antoine ont reçu chacun une balle. Florence a été massacrée avec une arme contondante. L'affaire Roman débute, les médias français diffusent la nouvelle. Tout le monde se demande ce qui a pu se passer. Les premières hypothèses fusent, le grand classique apparaît. Florence avait sûrement un amant qui a pété un plomb. Ou bien Jean-Claude, grand médecin, avait peut-être des ennemis qui ont voulu le faire taire ou le terroriser. Il avait peut-être trouvé quelque chose qui allait mettre à mal certains secrets pharmaceutiques. L'enquête débute pendant que Jean-Claude Roman est placé dans le coma. Et ce qui choque tout de suite les experts qui sont envoyés sur place, c'est que l'origine de l'incendie n'est pas du tout accidentelle. L'incendie est criminel, de l'essence est retrouvée absolument partout dans la maison, mais aussi dans la chambre des enfants et sur leur couverture. Ce qui dérange un peu les premiers enquêteurs sur place, c'est le fait que la chambre conjugale dans laquelle dormaient Jean-Claude et Florence n'a pas vraiment été touchée par les flammes, la porte était fermée, et on retrouve en bas de cette porte un linge, comme si quelqu'un avait voulu ralentir l'arrivée de la fumée dans la pièce. Ça peut pas être Françoise, vu qu'elle a eu le crâne fracassé. Jean-Claude, de son côté, est découvert drogué, mais est-ce qu'il a ingéré des médicaments de force ou de plein gré? Dès les premières heures, l'enquête s'accélère. On cherche à se renseigner sur Jean-Claude, le seul à ne pas avoir été massacré ou abattu par balle. Et problème, l'homme est un fantôme. À l'OMS, personne ne le connaît. Le médecin n'a pas non plus de cabinet fixe dans la région, donc on convoque son meilleur ami Luc pour savoir s'il a plus d'infos à donner aux enquêteurs. À la gendarmerie, Luc explique comme tout le monde avant lui que Jean-Claude est chercheur à l'Organisation Mondiale de la Santé, que c'est un médecin réputé, révéler qu'il est même le parrain de sa fille. Sauf que les enquêteurs lui annoncent rapidement qu'il ne trouve aucune trace d'un quelconque emploi à l'Organisation Mondiale de la Santé, pas même la preuve d'un diplôme de médecine que Jean-Claude aurait obtenu il y a une vingtaine d'années maintenant. Pire encore, à l'intérieur de la voiture de Jean-Claude Roman, on découvre un mot.
Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule.
Je vous rassure, moi non plus, j'ai rien compris, ni les enquêteurs à l'époque qui découvrent la lettre. Quel accident, quelle injustice, qui est Chantal et qu'est-ce que l'association Saint-Vincent vient faire là-dedans et pourquoi ils avaient envie de lui casser la gueule. C'est un petit peu bizarre de mettre ce genre de truc dans sa lettre d'adieu. C'est un petit peu comme si vous écriviez « Désolé papa et maman, je m'en vais » et « Pardon à la boulangère du coin pour lui avoir volé des bonbons il y a quelques mois ». En plus de ça, l'association Saint-Vincent, c'est une association de parents d'élèves. Alors qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Et si cette lettre n'avait pas été écrite par Jean-Claude et si l'affaire était bien plus énorme que ça ? Les meilleurs amis de la famille Roman commencent à penser à une affaire d'État. Et si Jean-Claude était un espion à la double vie ? Ça expliquerait bien des choses, il a été piégé, on tente de lui faire porter le chapeau. Bon, les enquêteurs sont plus terre à terre que les amis de Jean-Claude, ils interrogent les membres de l'association Saint-Vincent, qui expliquent que oui, bon, alors effectivement, il y avait des tensions avec Jean-Claude suite à l'éviction du directeur de l'école. En gros, Jean-Claude avait voté contre le fait que le directeur parte, alors que tout le monde avait voté pour. Voilà, ça avait créé des tensions, c'est pas pour ça qu'on massacre toute une famille. On essaie aussi d'identifier cette fameuse Chantal dont on trouve facilement le contact, puisqu'elle est en réalité la maîtresse de Jean-Claude, même Luc, son meilleur ami, est au courant. Et c'est là que l'affaire se débloque définitivement. Contactée par les autorités, Chantal raconte l'horreur qu'elle a vécue dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un peu plus de 24 heures. Elle avait rendez-vous avec Jean-Claude qui devait l'emmener dîner chez son ami Bernard Kouchner du côté de Paris. Bernard Kouchner à l'époque, c'est pas n'importe qui, il a cofondé Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, de grandes organisations qui œuvrent pour la médecine à travers le globe. Être invité chez ce genre de type à l'époque, c'est la classe, la haute société. Sauf que pendant le trajet, Chantal explique que Jean-Claude a péter un plomb. On reviendra en détail sur l'agression plus tard, mais en gros, il s'est garé sur une aire d'autoroute, a sorti Chantal de la voiture, lui a foutu un coup de spray au poivre et a essayé de l'étrangler sur le capot. Chantal l'a supplié d'arrêter, de penser à sa famille. Jean-Claude l'a relâché, puis l'a ramené chez elle en s'excusant. Pourquoi Jean-Claude a voulu se débarrasser de Chantal, ça on en reparlera. Mais alors, que s'est-il exactement passé à l'intérieur de la maison ? Quel a été le scénario mis en place par Jean-Claude pour massacrer tout le monde ? Quels ont été les derniers mots de Florence ? Avait-elle tout découvert ? Eh bien, notre mythomane à la calvitie bien avancée a préparé à la fin de sa vie son plan macabre pour partir avec ses proches sans jamais avoir à révéler ses secrets. Dans les derniers instants de sa vie, Jean-Claude va chercher le journal, profite de regarder la télé tranquillement alors que sa femme et ses enfants gisent à l'étage. Il va passer plus de 24 heures avec les corps de ses proches chez lui. Place à l'histoire de Jean-Claude Roman qui, tout doucement, se réveille du coma. Une vie de mensonges. Les Romans, c'est à la base une famille de forestiers établis dans le bourg de Clairvaux-les-Lacs. Ils y forment un véritable clan qui travaille dur, craignent Dieu et leur parole est respectée. À cette époque, dans ce genre de famille, à l'ancienne, on fait beaucoup d'enfants. Mais ce sera pas le cas d'Aimé et Anne-Marie, les parents de Jean-Claude, qui naît en 1954. Ils n'auront que lui pour cause de problèmes de santé. Dans l'enfance de Jean-Claude, on ne trouve rien de spécial. Voilà, il vit en campagne avec ses deux parents qui travaillent le bois. Il va à l'école du coin, étudie très sérieusement, à tel point qu'on dit de lui qu'il est en avance. Il ne fait jamais de bêtises, n'a jamais causé un seul problème à ses parents. Et pourtant, depuis toujours, Jean-Claude ressent en lui une tristesse qu'il ne comprend pas. Il se sent seul, n'a pas beaucoup d'amis. Même lorsqu'il arrive au lycée, il s'invente auprès des autres une petite amie qui s'appelle Claude, pour ne pas passer pour un naze qui n'est jamais sorti avec une fille. Ironie de l'affaire, le sujet de son bac de philo se porte en juin 1971 sur la vérité. vérité existe-t-elle ? Après le lycée, Jean-Claude Roman se prépare à passer le concours des eaux et forêts pour pouvoir travailler dans les forêts nationales françaises. Il s'inscrit dans une classe préparatoire, mais échoue et fait semblant de tomber malade pour mettre en pause sa scolarité. Pendant un an, il vit reclus chez ses parents au fin fond de sa campagne sans voir personne. Et ce tout petit mensonge, cette fausse maladie qu'il s'invente pour cacher son échec scolaire à ses parents, va le suivre toute sa vie, puisque peu à peu, en grandissant, Jean-Claude va grandir sur une montagne de mensonges. Pendant l'année scolaire 1972-1973, à l'âge de 18 ans, il décide de s'inscrire en première année de médecine. Et c'est là qu'on a un espèce de gros flou concernant Jean-Claude Roman. On sait qu'à cette époque, il se rapproche de Florence, sa future femme, qui est une cousine éloignée, avec qui il s'est toujours très bien entendu. Il réussit sa première année de médecine, passe à la deuxième, et là c'est le fiasco pour une raison que l'on ignore encore aujourd'hui. Plus de 30 ans après le massacre, Jean-Claude Roman décide de ne pas se rendre à ses examens de deuxième année. Alors ça peut arriver, un coup de mou, un trop-plein de pression quand on a des examens trop importants, comme en médecine par exemple. Jean-Claude aurait très bien pu expliquer à ses proches que voilà, il a eu peur, il sait pas pourquoi, il a pété un plomb, il s'est pas rendu à l'examen. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'il va faire, puisqu'il va faire croire à tout le monde qu'il a été à cet examen et qu'il l'a obtenu. Il va commencer 20 ans avant de massacrer ses parents, sa femme et ses petits, à mentir à tout son entourage, disant qu'il a obtenu l'examen haut la main, qu'il l'enchaîne avec la troisième année qu'il va aussi avoir. Et entre-temps, il s'est mis en couple avec Florence, qui ne doute pas du tout de ce que lui dit Jean-Claude, puisqu'elle, de son côté, fait des études pour devenir pharmacienne, et tous les deux s'aident à faire des fiches pour réviser leurs cours de médecine, obtenir de bonnes notes. Et Jean-Claude, il s'en sort plutôt bien, ça impressionne même Florence, qui voit en lui un type super intelligent, qui apprend vite, sait réciter ses cours de médecine, alors même qu'il ne s'y rend plus depuis plusieurs mois sans qu'elle ne le sache. Pour éviter que ses parents ne reçoivent à leur adresse des mots indiquant que leur fils ne vient plus à la fac, Jean-Claude donne de faux certificats médicaux pour qu'on ne lui pose pas trop de questions et l'administration de la fac laisse faire. Il se réinscrit année après année et le temps passe. Jean-Claude s'enfonce définitivement dans le mensonge, alors même que pour le féliciter de sa réussite aux examens, ses parents lui achètent un appartement pour qu'il puisse se consacrer un maximum à sa carrière de médecin et se spécialiser. Chaque automne, il reçoit du service des inscriptions de la fac de médecine sa nouvelle carte d'étudiant et personne à ce moment-là ne se doute du mensonge qui se met en place. Les amis de Jean-Claude ne sont pas du tout dans sa promo. Florence fait des études de pharmacienne, donc elle n'a pas non plus les mêmes cours que Jean-Claude. Et puis, il n'a pas non plus de problème d'argent, puisque ses parents lui paient son loyer et ses courses. Donc Jean-Claude passe toutes ses journées à l'intérieur de son appartement. Il vit enfermé toute la journée et sort le soir rendre visite à Florence, disant qu'il a passé ses dernières heures depuis ce matin à réviser. Et les années passent inévitablement. Florence réussit brillamment ses études pour devenir pharmacienne et aura même les félicitations du jury. Jean-Claude, lui, s'enfonce. Il fait croire à sa future femme qu'il vient d'être engagé comme chargé de recherche dans un grand institut de médecine à Lyon qui travaille pour l'OMS à Genève, à tel point qu'à la fin de leurs études, le couple se rapproche de la Suisse pour que Jean-Claude puisse avoir plus de perspectives d'évolution. Leur petite fille Caroline naît le 14 mai 1985. Antoine suit rapidement le 2 février 1987. Bon, vous l'avez compris, à ce stade, Jean-Claude Roman vit dans le mensonge depuis plus de 10 ans. Mais à ce moment-là, bah, c'était facile pour lui. Ses parents lui avaient acheté un appartement, donc qu'il avait à son nom. Pas besoin de payer de loyer, même si avant je l'ai dit et là je viens de m'en rendre compte. Alors en fait, Jean-Claude Roman, il payait pas de loyer, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, c'est un petit peu l'habitude. Mais ses parents lui donnaient de l'argent tous les mois pour aller faire des courses. Et il était tranquillement chez lui. Les parents de Jean-Claude, à l'époque, sont fiers de pouvoir aider leur futur fils qui va devenir un grand médecin. En déménageant avec Florence, pour avoir de l'argent, Jean-Claude va revendre son appartement, environ 50 000 euros d'aujourd'hui. Ces 50 000 euros, il les met de côté et ça va lui permettre pendant des années de cacher son mensonge. Puisque Jean-Claude, il peut pas rester à la maison à rien faire, il peut pas glander toute la semaine et faire croire à Florence qu'il est vraiment un grand médecin de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est censé être un type hyper occupé qui a des responsabilités. Alors, la journée, pendant des années, il va partir de chez lui comme pour aller au travail et s'arrêter ici et là dans des bureaux de tabac loin de chez lui pour boire une bière, lire le journal et des magazines de médecine pour se tenir informé des nouvelles avancées puisque dans son cercle d'amis, il y a des médecins, des vrais, vu que Florence est pharmacienne et Jean-Claude a gardé contact avec des gens de son âge qui, eux, ont été jusqu'au bout de leurs études dans diverses spécialités. Donc, il faut pouvoir tenir les discussions quand des repas sont organisés. Quand Jean-Claude ne passe pas ses journées au bureau de tabac, il reste dans sa voiture, sur des aires d'autoroute, là où personne ne le connaît. Il prend un sandwich, lit toute l'après-midi, fait une petite sieste et de temps en temps, quand il a envie de s'aérer l'esprit, il va dans les villes de la région pour visiter des librairies et continuer de lire des livres de médecine. Il se permet même des petites escapades en montagne et dans les bois. Mais quand on travaille à l'Organisation Mondiale de la Santé, bah, y a mondial dans le nom, donc on est censé aussi être amené à voyager. Jean-Claude organise donc des faux voyages. Il dit à sa femme qu'il doit aller par exemple en Égypte, il achète un guide du pays, se rend à l'aéroport et passe plusieurs jours dans un hôtel à côté de l'aéroport à regarder simplement la télé et les avions qui défilent derrière sa vitre. Lorsqu'il rentre chez lui, Jean-Claude raconte à sa femme ses aventures à travers le monde, lui dit qu'il est épuisé par le décalage horaire. Caroline et Antoine lui sautent dans les bras, contents de revoir leur papa dont ils sont si fiers. Mais au fil des années qui passent, l'argent part, puisque Jean-Claude n'a aucun travail et cet HVF est hyper frustrant à faire parce que c'est difficile de se rendre compte comme ça dans un temps résumé que Jean-Claude, pendant 20 ans, il ne va absolument rien faire de sa vie. Je veux dire, 20 ans, c'est même pas l'âge de certaines personnes qui regardent actuellement cet HVF. C'est énorme comme temps. Pendant 20 ans, le type va camper sur des parkings avant de rentrer chez lui à 18h, faisant croire à sa femme, ses amis, ses proches qu'il a eu une super dure journée de boulot en tant que médecin à l'Organisation Mondiale de la Santé. Eh bien, pour trouver cet argent, Jean-Claude va rebondir sur son mensonge. Il est médecin en Suisse, et en Suisse, il y a quoi ? Oui, bon, du chocolat et des marmottes, mais surtout des banques qui peuvent, soi-disant, lui proposer des placements ultra rentables qui rapportent 18% par an. Pour exemple, le livret A français rapporte 3%. Donc, si vous donnez 10 000 euros à Jean-Claude et qu'il les place en Suisse, à la fin d'année, ces 10 000 euros vous auront apporté 1 800 euros. Alors que si vous les mettez sur un livret A, vous aurez 300 balles. Donc, le choix est vite fait. Les romans, les oncles, les cousins, les proches, les amis commencent à appeler Jean-Claude pour placer leur argent. L'un de ses oncles lui donne des dizaines de milliers d'euros. Le père de Florence, Pierre Crollet, qui prend sa retraite à la fin des années 1980, donne au mari de sa fille environ 70 000 euros qu'il a touché à cause d'un licenciement économique l'ayant mis en retraite anticipée. Les comptes de Jean-Claude se remplissent et cet argent n'est bien sûr pas du tout placé en Suisse. Il s'en sert pour vivre jusqu'au jour où Pierre Crollet, le père de Florence, demande à Jean-Claude s'il pourrait enfin avoir les intérêts de son argent. Il aimerait bien se faire plaisir et s'acheter une Mercedes. Nous sommes au milieu d'année 1988, au moment où Pierre Crollet demande son argent. Le 23 octobre, alors qu'il est seul avec Jean-Claude, le père de Florence chute dans l'escalier de sa maison. Il meurt quasiment sur le coup. Banal accident d'après Jean-Claude, qui a prévenu rapidement les secours qui n'ont rien pu faire vu la violence du choc et l'âge du monsieur. Et cette mort, c'est le jackpot pour Jean-Claude puisque Madame Crollet va décider de revendre sa maison. Voilà, la maison est trop grande et elle n'arrivera pas à vivre toute seule dans celle-ci sans son mari. Donc, elle réussit à la revendre environ 200 000 euros actuels. Ces 200 000 euros, elle les donne à Jean-Claude pour qu'il les place. Alors, vous imaginez bien qu'il les place nulle part, il les met dans ses poches et il s'en va. Avec ce jackpot, Jean-Claude en profite pour louer une belle maison à Prévecin. La famille vivait avant en appartement. Il a enfin les moyens d'offrir une maison à sa femme et ses enfants. Il prend aussi la main sur les comptes bancaires de ses parents, les vide peu à peu en disant que pas de soucis, il place l'argent et puis ses vieux parents à la retraite n'ont pas besoin de toute cette épargne. Autant le faire travailler pour les petits-enfants. Au début des années 90, Jean-Claude se rapproche d'une certaine Chantal qui est l'ex-femme de l'un de ses amis, mais avec qui il a gardé contact. Alors, la relation est pas incroyable. En gros, Jean-Claude va monter régulièrement à Paris pour inviter Chantal à dîner en lui disant qu'il est dans la capitale pour de grandes recherches. Il va lui avouer qu'il l'aime. Chantal va lui dire qu'elle veut simplement qu'ils restent amis, et au début ça va s'arrêter là, mais Jean-Claude c'est un sacré forceur, et vu qu'il a un peu d'argent de côté avec toutes ses arnaques, il va essayer d'impressionner Chantal en l'invitant à Rome, puis en Russie, toujours en tant qu'ami, mais en essayant de la draguer, d'aller plus loin, mais Chantal ne cède pas. Jean-Claude, il l'attire pas du tout. Alors il y aura bien un moment au tout début de leur relation où ils vont coucher ensemble, mais ce sera tellement nul que Chantal va supplier Jean-Claude de ne plus jamais l'approcher et lui expliquer qu'elle veut juste qu'ils restent amis, c'est tout. Et au moment où Jean-Claude mène une double vie avec Chantal, Florence, quant à elle, reste à Prévecin comme toujours. Elle pense que son mari est en déplacement professionnel à travers le monde, alors qu'il fait des petits voyages avec Chantal, qu'il paie grâce à l'argent de ses proches. Et ses fameux placements à 18%, il va en parler à Chantal qui, suite à son divorce, a revendu l'un de ses biens qu'elle avait en commun avec son ex-mari, et elle a 145 000 euros à placer, mais elle veut pouvoir les récupérer rapidement en cas de besoin. Pas de soucis, Jean-Claude prend les 145 000 euros, il les place et elle les récupère quand elle veut. Dans le même temps, il s'achète une belle BMW, se paie des hôtels de luxe à Paris, de beaux dîners, des costumes. 1993 vient et après avoir arnaqué la majorité de son entourage et dépensé leur argent, Jean-Claude Roman sent que la chute arrive. 20 ans qu'il tient son mensonge, 20 ans désormais que tout le monde le pense diplômé de médecine, mais fragilisé, le château de cartes qu'il a construit depuis des dizaines d'années s'apprête à s'effondrer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les derniers instants pour arriver en janvier 1993 et comprendre pourquoi le massacre a eu lieu à ce moment précis, il faut traverser rapidement l'année 1992 pour voir une à une les cartes du château s'effondrer. L'année 1992 se déroule sous la menace de savoir tous ces mensonges révélés. La plus grande erreur de Jean-Claude Roman a été de prêter de l'argent à Chantal. C'est une femme intelligente, diplômée, qui fait régulièrement des placements et a donc des projets à financer. À tout moment, elle peut lui redemander ses 145 000 euros. Alors, pour se détendre, Jean-Claude, qui commence à faire des crises d'angoisse, se paie des massages professionnels dans des salons lyonnais. Il achète également des cassettes pour adultes pour ses longues soirées à l'hôtel lorsqu'il ment à sa femme. Jusqu'au moment où Chantal commence à lui redemander une partie de son argent. Et là, Jean-Claude, il est coincé parce que vous imaginez bien qu'il a tout flambé. Il explique donc à Chantal que pas de soucis, il y a juste un tout petit délai à respecter, mais t'en fais pas, ton argent tu vas le retrouver. C'est aussi en 1992 que l'association des parents d'élèves de Saint-Vincent, comme il en fera mention dans sa lettre d'adieu retrouvée dans sa voiture, se froisse avec Jean-Claude puisqu'il refuse de voter l'éviction du directeur de l'école qui a eu une relation avec une des institutrices mariées. Et vu que c'est une école privée catholique, ça fait scandale et les parents d'élèves se révoltent. Jean-Claude défend le directeur et les parents d'élèves lui tournent le dos. Rien de bien croustillant, mais ça le secoue un peu d'être mis à l'écart comme ça, lui qui se dit grand médecin que tout le monde respecte. Jean-Claude va alors décider de faire son petit bazar en contactant l'OGEC, qui est une association en charge de gérer les établissements privés catholiques. Sauf qu'il est débile, désolé du terme, mais en contactant l'OGEC pour justement faire un petit peu son bazar sur le fait que le directeur de l'école ait été viré, et je vous avoue que je sais pas pourquoi Jean-Claude il s'est mis dans cette histoire, ça sort de nulle part, et même moi quand j'ai relu le livre L'Adversaire pour pouvoir écrire cet HVF, je me suis demandé mais qu'est-ce que le lycée Saint-Vincent et tout avait à voir là-dedans, mais bon, c'est important donc je suis obligé de vous en parler. Eh bien, les membres de l'OGEC, en recevant le courrier de Jean-Claude, vont tenter d'en apprendre un peu plus sur lui pour le contacter. Sauf que Jean-Claude, il trouve rien sur lui. Tout le monde leur dit que le type est médecin à l'OMS et qu'il faut le prendre au sérieux parce qu'il a des contacts. Mais on trouve rien. La seule chose qu'on trouve au nom des romans à Prefsin, c'est Florence qui est d'ailleurs contactée, et les membres de l'OGEC explique à Florence que son mari, c'est un fantôme, qu'on trouve rien le concernant et qu'on aimerait bien avoir rendez-vous avec lui à propos de sa lettre qu'il a envoyée pour le lycée Saint-Vincent, etc., etc., toute l'histoire. Florence, elle explique donc que, bon, elle sait pas et elle creuse pas plus. Jusqu'au moment où, à la fin d'année 1992, Florence croise à la sortie d'école de ses enfants une maman dont le mari travaille aussi à l'OMS et qui demande à Florence si elle vient à la soirée de Noël organisée pour les familles à Genève. Ce à quoi Florence répond que « bah c'est bizarre, son mari ne lui en a pas parlé ». Est-ce que à ce moment-là, Florence commence à avoir des doutes sur son mari ? Est-ce qu'elle fait ses petites recherches de son côté ? Ça, pour l'instant, l'histoire ne nous le dit pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une semaine après, le massacre a lieu. Et c'est en cette fin d'année 1992 que tout s'effondre pour Jean-Claude, puisque Chantal devient de plus en plus insistante. Elle veut récupérer son argent, elle s'en fout s'il n'a pas fructifié au maximum. Elle veut ces 145 000 euros que Jean-Claude a complètement flambé. Sa pyramide s'effondre, sa femme commence à avoir des doutes. Elle lui demande pourquoi elle n'a jamais été comme les autres familles aux soirées organisées par l'OMS, pourquoi personne ne trouve d'infos sur son job. Noël passe, les romans sont en famille, Caroline et Antoine sont gâtés par leurs grands-parents. Puis vient le nouvel an. La dernière semaine de la famille Roman s'enclenche. Le lundi 4 janvier, la mère de Jean-Claude lui téléphone. Elle vient de recevoir de la banque une lettre lui indiquant que leurs comptes sont vides. Pire même, les parents de Roman doivent plus de 6000 euros et risquent à tout moment d'être interdits bancaires. Ils ne comprennent pas, Jean-Claude était censé gérer leur argent. Ils ne regardent plus leurs comptes bancaires depuis un bout de temps et Jean-Claude rassure ses parents. Il va faire un virement. Tout va s'arranger. Le mardi, il fait pourtant du shopping avec Florence et s'offre un nouveau costume et un manteau à 450 euros. Personne ne se doute qu'à ce moment-là, Jean-Claude prépare déjà sa fin de vie. Il hésite encore, fuir à l'étranger, avaler du poison, partir mourir dans une forêt sans que personne ne le retrouve jamais. Il sait pas encore, mais l'enquête prouvera plus tard qu'il a beaucoup lu à propos de ces sujets-là. Puisque c'est ce jour, 24 heures avant le quintuple meurtre, que Jean-Claude remplit deux jerrycans d'essence et achète un rouleau à pâtisserie tout neuf, bien solide, pour l'abattre dès ce soir sur le crâne de Florence. Puisque oui, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais les rapports d'autopsie sont très clairs. Florence a été la première à mourir sous les coups de Jean-Claude Roman. Elle meurt dans la nuit du vendredi à samedi. Antoine et Caroline reçoivent chacun une balle. Samedi dans la journée. Préparez-vous, puisque l'on entre maintenant dans la phase finale de l'affaire Roman. Le vendredi soir, on ne saura jamais exactement ce qu'il s'est passé à l'intérieur du domicile. C'est absolument impossible pour ce genre d'affaire se passant à huis clos et dans laquelle on a comme seul témoignage celui de l'accusé qui essaie de sauver sa peau. Mais si on se base sur les rapports d'expertise, on sait que Florence s'est endormie dans la nuit de vendredi à samedi dans un état de quasi-ivresse. Elle était complètement bourrée, et on le sait puisqu'au moment où son corps est découvert le lundi tôt le matin dans l'incendie, elle a encore de l'alcool dans le sang. Ce serait donc ce vendredi soir que Florence aurait pu tout découvrir. Elle s'est renseignée discrètement sur son mari depuis quelques jours et a enfin eu les réponses à ses questions. Non, aucun Jean-Claude Roman n'est à l'OMS. Non, l'argent donné par ses proches n'est pas placé dans des banques suisses à 18%. Ça n'existe même pas. Tout est faux. Sur les fiches d'impôts qu'elle n'a jamais regardées en 20 ans de vie commune, elle se rend compte que Jean-Claude a dit être étudiant pendant des années. Jamais il n'a inscrit son statut de médecin à l'OMS. Il ne déclare d'ailleurs aucun revenu. C'est lui qui gérait les comptes et elle n'a rien regardé. Le loyer était payé, les enfants avaient à manger, elle ne s'est jamais inquiétée de rien. Lorsqu'il rentre chez lui après une énième journée de mensonges, Jean-Claude trouve sa femme Florence en larmes. Elle a beaucoup bu à cause du choc psychologique et lui balance toutes ses vérités pendant que les enfants dorment à l'étage. Jean-Claude dira simplement avoir consolé Florence dans le canapé, puis il l'a emmenée à l'étage dans leur chambre pour la coucher. Il avait de toute façon prévu d'en finir, alors il redescend dans la cuisine, attrape le rouleau à pâtisserie, grimpe dans la chambre conjugale et après plus de 20 ans de vie commune, des années de mariage et deux enfants, fracasse le crâne de sa femme, Florence. Il frappe encore et encore et encore, ne s'arrête que lorsque Florence lâche un dernier soupir après sa lente agonie et ses bruits étouffés. La chambre est pleine de sang, une arme contondante, ça laisse des traces. Jean-Claude lui-même est plein de sang. Alors, il part dans la salle de bain, nettoie le rouleau à pâtisserie, enlève ses vêtements et s'allonge dans le canapé après avoir pris soin de fermer la porte de la chambre pour que les enfants n'y entrent pas. Le lendemain matin, Antoine et Caroline se lèvent de bonne heure. C'est samedi, quel bonheur, y a pas école. Jean-Claude leur prépare le petit déjeuner et se cale dans le canapé avec eux pour regarder les trois petits cochons, comme il le dit. Plus tard, il raconte
« Je savais après avoir tué Florence que j'allais tuer aussi Antoine et Caroline et que ce moment devant la télévision était le dernier que nous passions ensemble. Je les ai câlinés, nous sommes restés comme ça peut-être une demi-heure. Caroline a vu que j'avais froid, elle a voulu monter chercher ma robe de chambre. J'ai dit que je les trouvais chauds, eux, qu'ils avaient peut-être de la fièvre et que j'allais prendre leur température. Caroline est montée avec moi, je l'ai fait coucher sur son lit, je suis allé chercher la carabine. Elle avait un oreiller sur la tête, c'est là que j'ai tiré. J'ai posé la carabine quelque part dans la chambre, j'ai appelé Antoine et j'ai recommencé. »
Jean-Claude tue également le chien de la famille pour qu'il aille, d'après lui, au paradis avec sa fille. Après les meurtres, il recouvre les corps de Caroline et d'Antoine avec une couverture. Il range son arme et sort s'aérer. Pour se changer les idées, il va au bar tabac du coin pour acheter le journal, puis relève le courrier de sa boîte aux lettres. Tous ceux qui l'ont croisé à ce moment-là diront qu'il était parfaitement normal, souriant, disant bonjour. Il rentre chez lui, appelle ses parents pour leur dire qu'il va venir manger ce midi et part en direction de Clairvaux, armé de sa carabine. Jean-Claude Roman roule pendant 1h30, seul dans l'habitacle de sa voiture. Il sait parfaitement qu'il s'apprête à tirer sur ses propres parents. Il sait que sa femme et ses deux petits gisent chez lui à Prévecin. Il est à la fin de sa vie et emportera tout le monde avec lui. Arrivé à Clairvaux, Jean-Claude est comme toujours accueilli par un grand sourire. Ses parents ne lui posent pas de questions concernant la carabine, puisqu'elle appartient au père de Jean-Claude et il dit venir lui rendre. Jean-Claude mange avec ses parents ce midi-là. Il parle de tout et rien, de la nouvelle année qui s'annonce, du froid qui s'est installé dans la région, des enfants qui ont repris l'école. Et puis, Aimé, le père, explique à Jean-Claude qu'il a un problème à l'étage, une drôle d'odeur qui doit venir d'une canalisation. Il aimerait son avis. Jean-Claude suit son père à l'étage. Au moment où Aimé se penche pour montrer à Jean-Claude d'où provient l'odeur, Jean-Claude attrape la carabine qu'il a équipée d'un silencieux en partant de chez lui et fait feu. Aimé Roman, 74 ans, s'effondre sur le sol, mort sur le coup. Au rez-de-chaussée, Anne-Marie n'a rien entendu, malgré que le silencieux n'étouffe pas complètement la détonation. Jean-Claude lui explique qu'elle devrait aller dans le salon, il a une surprise pour elle. Anne-Marie joue le jeu, son fils, grand médecin à l'OMS, a sûrement encore fait une folie. Il lui a peut-être ramené un cadeau de son dernier voyage, tiens. Anne-Marie attend pendant que Jean-Claude la met en joue. Mais en entendant un bruit métallique, la mère se retourne d'un coup. Trop vite. Mais trop tard, Jean-Claude avait déjà le doigt sur la détente et a tiré dans la panique. Anne-Marie, 69 ans, s'effondre. Jean-Claude Roman va prendre soin de mettre ses deux parents ensemble dans le salon sous une couverture et il abat également leur chien pour qu'ils les suivent dans la mort. La dernière personne qu'il reste à abattre, c'est Chantal, à qui il doit 140 000 euros et il veut pas qu'une fois que l'affaire éclatera dans les médias, qu'elle raconte toute sa vie avec Jean-Claude. Elle en sait bien trop sur lui. Et souvenez-vous, ça tombe bien, ce samedi-là, Jean-Claude a rendez-vous avec elle pour aller soi-disant dîner chez Bernard Kouchner. Chantal grimpe dans la voiture sans se douter une seule seconde qu'elle est la dernière victime de Jean-Claude Roman qui rapidement se gare sur une aire d'autoroute déserte en lui disant qu'il aimerait bien lui mettre un beau collier autour du cou qu'elle doit porter pour le dîner. Chantal descend de la voiture et le calvaire commence. Elle est aspergée d'une bombe au poivre et à moitié aveuglée. Sans que Jean-Claude se jette sur elle, commence à l'étrangler. Elle sent son cou qui se compresse comme jamais elle ne l'a ressenti auparavant. Elle réussit quand même à se débattre, à reprendre sa respiration et dit
« Ne me tue pas, pense à Léa et Chloé !»
Ces deux petites filles. C'est à ce moment précis que Jean-Claude est renvoyé à la réalité. Chantal n'est pas seulement sa maîtresse, ni celle qui risque de l'humilier après sa mort, c'est aussi la maman de deux petites. Ils décident donc de l'épargner et tous deux reprennent la route. Pendant le trajet, Jean-Claude va même s'arrêter de nouveau pour faire semblant d'appeler Bernard Kouchner pour annuler le rendez-vous et le dîner. Faut bien se rendre compte du niveau de mythomanie du type. Il vient d'étrangler sa maîtresse qui a survécu par une chance inouïe, mais il continue dans ses mensonges. C'est pour vous dire à quel point, chez lui, la mythomanie, c'est naturel. Ça fait plus de 30 ans que Jean-Claude Roman ment. Il a menti sur ses études, sur son poste à l'OMS, sur son argent. Il a menti à tout le monde. Donc, il continue comme ça, comme si finalement, c'était sa vraie vie. Chantal est déposée chez elle. Jean-Claude s'excuse platement et lui promet qu'elle aura son argent dès lundi. Il rentre chez lui. Au petit matin de ce dimanche 10 janvier, Jean-Claude se pose devant la télé. Il regarde une cassette vidéo qu'il va étrangement détruire par la suite. Il en détruira d'ailleurs plusieurs ce jour-là et dira plus tard qu'avec sa femme, il se filmait de temps en temps en ayant des rapports. Il a sûrement voulu détruire ses ébats qui risquaient d'être vus et moqué par les enquêteurs. Après avoir passé la journée entière devant la télé à regarder et détruire des cassettes, Jean-Claude déverse de l'essence un peu partout dans la maison, mange, continue de se reposer et part se mettre en pyjama. C'est l'heure. Le calvaire va prendre fin. Demain, toute la France apprendra son histoire, mais il part en emportant avec lui sa plus proche famille pour que personne ne puisse le décrire tel qu'il était vraiment. Il se met en pyjama, met le feu et part dans la chambre conjugale. Et là, Jean-Claude fait quelque chose d'étrange. Il place un linge pour que la fumée n'entre pas trop vite dans la maison, comme s'il ne voulait pas vraiment mourir. Il avale des médicaments périmés depuis 10 ans qui ne sont pas du tout mortels. Et puis, couché à côté de sa femme, il ferme les yeux et attend. Sauf qu'il allume l'incendie à 4 heures du matin, heure à laquelle passent les éboueurs. Lâche jusqu'au bout, je suis persuadé personnellement que Jean-Claude a tout fait, a tout calculé jusqu'au bout pour être sauvé à temps des flammes par le passage des éboueurs et l'appel des pompiers, tellement il était terrifié par la mort. Sinon, pourquoi ne pas juste se tirer une balle? Ce qui fait que l'on a autant de détails sur la vie et les mensonges de Jean-Claude Roman aujourd'hui, c'est qu'à sa sortie de coma, il a poussé les enquêteurs à remonter le fil de sa vie puisqu'il continuait de se dire médecin de l'OMS et innocent des crimes reprochés. Il a donc fallu constituer un dossier béton. Les psychiatres disent de Jean-Claude Roman que c'est un homme précis, intelligent, que l'on pourrait comparer à un robot qui s'adapte parfaitement à l'interlocuteur qu'il a en face de lui pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre. C'est un homme narcissique qui se pense meilleur que tout le monde et qui a fini par être étouffé par ses mensonges. Au fil de l'instruction du dossier qui porte son nom, Jean-Claude Roman va finir par tout avouer, ses mensonges et les meurtres. À son procès, il pleure beaucoup, tremble et régulièrement évacué. La honte le ronge. Il déclare peu avant le délibéré en juillet 1996 «
C'est la dernière occasion que j'aurai de parler à ceux qui souffrent à cause de moi. Je sais qu'ils me refusent le pardon, mais en mémoire de Florence, je veux leur demander pardon. Je veux dire à la maman de Florence, à ses frères, que leur papa est mort des suites de sa chute. Je leur demande à tous pardon. Ma Flo, ma Caro, mon Titou, mon papa, ma maman, vous êtes là dans mon cœur et c'est cette présence invisible qui me donne la force de vous parler. Pardon d'avoir détruit vos vies. Pardon de n'avoir jamais dit la vérité. Et pourtant, ma Florence, je suis sûr que ton intelligence, ta beauté, ta miséricorde auraient pu me pardonner. Je savais que je ne pourrais pas vivre sans vous, mais aujourd'hui, je suis encore en vie et je vous promets d'essayer de vivre tant que Dieu le voudra. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour entre nous.
Il faudra seulement 5 heures au jury ce 6 juillet 1996 pour déclarer Jean-Claude Roman coupable des meurtres de sa femme, son fils, sa fille et de ses parents. Jean-Claude Roman est condamné à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération sous condition après 22 ans, soit en 2018. Le 27 juin 2019, après 23 ans de détention mais sans aucune évolution psychiatrique d'après les experts, Jean-Claude Roman a été libéré à l'âge de 65 ans. Il touche une pension d'environ 800 euros et vit désormais discrètement dans une abbaye avec un bracelet électronique. Il pourra être libéré totalement des chaînes de la justice en 2031 et aura alors toute la liberté de retourner à Prévesin, ce que les proches de Florence redoutent plus que tout. Son frère Emmanuel s'est dit choqué par cette libération et il dit avoir honte de la justice française. Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout, mettez mensonge en commentaire puisque je viens finalement de vous raconter l'histoire de toute une vie de mensonges. Et encore, j'ai omis certains détails comme le fait que Jean-Claude vendait des gélules anti-cancer à certains de ses proches ou que même lui, pour se faire plaindre, il faisait semblant de temps en temps d'avoir un cancer, d'aller mal pour rester tranquillement à la maison. Bref, l'affaire Roman, c'est un monument de l'histoire criminelle française et surtout, n'hésitez pas si vous voulez vraiment encore plus, en savoir plus, même si cette HVF est déjà bien complète, je pense, à vous procurer le livre d'Emmanuel Carrère, j'allais dire Carrière, mais non, c'est Carrère, L'Adversaire, qui est vraiment, vraiment excellent et qui a énormément de détails. Bref, c'est Max Guys. Encore désolé pour la sortie de cet HVF. Je sais que le sujet a été traité récemment, mais bon, voilà, moi, c'était prévu de la sortir ce vendredi. Donc, j'espère que ça vous aura quand même plus. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.